Pour moi, je veux dire une vision un peu personnelle, mais pour moi, travailler avec Jules et Françoise Zaquier sur leurs données, sur nos données de recherche, ce n'est pas un travail à la fin de nos recherches. On se dit, bon, bah, c'est eux qui vont les valoriser ou on va les enregistrer. Je pense que c'est une erreur de voir un projet comme ça, parce que ça ne permet vraiment pas de le diffuser. Et puis, ça permet pas non plus de répondre à différents protocoles d'enregistrement, différents protocoles pour comment on les enregistre et surtout comment on les conserve et on les communique au sein de la communauté scientifique, mais surtout aux autres personnes. Et ça, c'est le travail que fait Jules et Françoise. Et on a une chance énorme au Cresson de les avoir parce que déjà, dans beaucoup de labos, il n'y a plus ce personnel-là. Donc pour nous, c'est vraiment un privilège. Et puis c'est un privilège parce qu'ils nous accompagnent dans nos projets et ça permet vraiment d'avoir un autre regard sur nos données. Et ça, j'insiste là-dessus sur le fait que c'est vraiment une chance et pas les voir comme en bout de liste, mais les intégrer dès le début et j'en remercie énormément. Voilà, maintenant c'est à vous.
Ça tombe très bien, je vais peut-être en chimie là-dessus. Donc moi, je vais vous présenter ce qu'on appelle la collection Cresound, qui est en gros le fait de publier ces recherches qui portent sur le son. Pour vous refaire le rapide historique qui a commencé Nicolas lundi matin et que Jean-François, Olivier et Grégoire ont poursuivi. Cresound, à la base, c'est un acousticien, un sociologue, musicologue aussi qui se rassemble, donc qui s'intéresse au son. Et qui, avec des architectes, se disent, tiens, plutôt que d'étudier le son, on va aller sur le terrain, on va les enregistrer, on va utiliser ces enregistrements pour faire écouter aux gens, pour les interroger, leur faire émerger une parole beaucoup plus riche que simplement par un capitule classique. Et donc, ils partent avec ce genre de machine à l'époque, c'était les années 80, je ne sais pas si vous avez connu ça. Et étonnamment, ou pas, tous ces enregistrements qu'ils ont faits entre 80, je crois, jusque vers 93 à peu près, n'ont pas jamais été publiés à l'époque. Il y en a une ou deux qui ont été publiés sur des supports cassettes, et puis c'est tout. Après, ils sont devenus les publications CD dans les années 90, quelque chose comme ça. Après, directement, effectivement, on découvre l'enregistrement numérique, le fait de travailler sur des ordinateurs plutôt que sur des machines comme ça, avec les bandes comme ça. Et donc, quand je suis arrivé, que je me suis dit, bon, on va reprendre tous ces enregistrements, ces recherches historiques, comme on a appelé, et bien, je me suis retrouvé avec des machins comme ça, des bouts de papier où ils avaient noté deux ou trois trucs, et puis le rapport de recherche, heureusement, où il y avait quand même des analyses fragment par fragment, donc ça permet de reconstituer ce qu'on appelait justement les métadonnées qui sont liées à ces enregistrements-là. Voilà, alors avant de passer à l'époque numérique et puis à l'ensemble de la collection, il faut quand même dire qu'il y a le gros truc qui a changé. C'est un paradigme fondamental, il me semble, c'est peut-être travailler avec ça, avec des grosses machines, des bobines ou même des cassettes, pour analyser, ils écoutaient, ils réécoutaient. Et en gros, tu enregistres une demi-heure, tu écoutes une demi-heure, une deuxième fois la demi-heure, une troisième fois. En gros, et quelque part, je me dis, ben tiens, la manière de réécoute était beaucoup plus longue, donc beaucoup plus profonde que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos petites machines. Et justement, j'en ai ouvert une au hasard, un dernier aujourd'hui. Hop, je prends mon fichier, je le mets sur mon logiciel. Je peux l'écouter, bien sûr, j'ai intérêt à l'écouter. Mais je peux très bien aussi l'analyser visuellement. Et sur cet enregistrement-là, je me dis, oh, tiens, il y a des plages de vide, il y a des émergences qui arrivent. J'ai déjà une pré-analyse visuelle avant même d'avoir eu besoin de mettre l'oreille dessus. Voilà, c'est le gros paradigme qui s'est inventé au début du XXe siècle. Et il ne faut pas le perdre de vue. Notamment, souvent, on va sur le terrain, on a les machines qui ont plein de mémoire, on enregistre 3 heures, et puis à la fin, il faut qu'on produise un petit truc de 5, 6, 7 minutes. On va écouter les 3 heures, on va les réécouter, il faut aussi mesurer ce qu'on enregistre dès le départ, avant de vouloir en faire quoi que ce soit. Bref, pour revenir à notre collection Cresound, je vous donnerai l'adresse après où ça se situe. En gros, depuis 1982, 85, 87, 89, c'est encore, voilà, toutes ces recherches dites historiques qui sont là. Et puis voilà, petit à petit, ça s'est enrichi de nouvelles recherches jusqu'à en venir là où disait Sylvie en introduction, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui partent sur le terrain, eh ben, ils ont déjà en tête qu'il va falloir qu'ils fournissent les fichiers, les métadonnées, dont je vous parlerai vite fait avec ça, pour qu'on puisse justement avoir la chaîne complète avant la fin de la recherche. Ça arrive encore. Quelqu'un parle, ah, j'ai les 50 enregistrements, qu'est-ce que je peux en faire? Mais bon, ça devient rare quand même. Voilà, donc les premières publications en cassette, et puis donc maintenant, ensuite plutôt, les publications, quand on a commencé à récolter toutes ces recherches, toutes ces données sonores, on a commencé à faire une petite collection de CD. Je ne sais pas si encore aujourd'hui parmi vous des gens écoutent des CD. On pensait que c'était, voilà, on en arrive maintenant, on a fini les vinyles, on a fini les bandes, on a des CD. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on écoute plutôt des vinyles. Et le CD, ça existe encore, mais je dirais que c'est presque devenu anecdotique, à tel point que les publics, au début, j'ai dû faire une trentaine, quarantaine de CD de ces trucs-là. Aujourd'hui, bah oui, on les met directement en ligne. Et plutôt que de partir avec un truc comme ça, je vais vous donner l'adresse sur le site du Crescent, où vous pouvez écouter tous les enregistrements de cette collection. Si je clique dessus, ça ferait marcher. Voilà, par exemple, une. Ça se présente comme ça, avec tous les enregistrements. Et là, c'est là qu'on peut peut-être commencer à parler des métadonnées, c'est-à-dire que j'ai enregistré un truc. Il faut au moins que ce que j'ai sélectionné, je donne un titre, que j'indique combien de temps ça va durer, que je fasse un petit descriptif aussi. C'est ce qu'on appelle les métadonnées, que Françoise peut-être pourra plus vous développer éventuellement. Mais en gros, il y a des tas de choses qui vont accompagner cet enregistrement. Parce que sinon, on se retrouve à écouter un truc et puis, qu'est-ce que c'est? C'est joli, c'est intéressant, mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est un petit peu pour ça. Là, c'est la version simplifiée, on va dire, que vous pouvez écouter et puis avoir un petit peu le titre des plages. Lié à ça, on a sur chaque item une notice bibliographique donc, du centre de doc qui va être beaucoup plus précis au niveau du descriptif. Est-ce que c'est la peine que j'aille jusque par là-bas?
C'est rapide.
Ouais, c'est rapide, mais comme ça me permet de dire qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire. Sur les métadonnées, ne pas oublier de dire qui l'a fait et quand il l'a fait. Parce que souvent, je me suis retrouvé avec des bandes, de dire « Ah, mais c'était qui ça qui a fait ?» Et puis j'ai dû aller demander aux gens « C'est pas toi qui aurais enregistré un espèce de machin là-bas » Et c'était quand ?« Oh, c'était il y a une bonne vingtaine d'années, ça !» Ouais, et c'est pour ça que penser à noter, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait à telle époque. Éventuellement, même maintenant, on demande l'heure, la saison, des choses comme ça, un peu plus précis. Des résumés et puis voilà l'index un petit peu des choses que vous avez fait écouter. Bon, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans la notice bibliographique qui va prendre 3 heures à s'ouvrir. C'est l'air bloqué. Bref, en tout cas, sur chacune de ces notices, vous pouvez aller vous référer à la notice bibliographique plus précisément. Une fois qu'on a donc mis en place ce protocole d'enregistrement, de technique physique d'enregistrement, ce protocole donc de remplir des métadonnées, on a commencé à dire, bon, on diffuse sur CD, on diffuse sur site, et on diffuse aussi sur quel site. C'est là, Françoise vous en parlera un peu plus précisément, mais on s'est dit que pour faire écouter, il ne suffit pas de dire les gens vont venir à Cresson et puis ils vont venir écouter chez nous. Il faut aussi que dans la droite... À gauche dans le monde, il y a des gens qui s'intéressent au son, qui ne s'intéressent pas que à la musique, qui ne s'intéressent pas que au bruit, mais à ce genre de son, de l'environnement. Et il faut pouvoir aussi aller les atteindre où qu'ils soient. Et petit à petit, voilà, on rentre dans une communauté, des réseaux justement, de différents réseaux, qui pourront être plutôt des musiciens électro-acousticiens, plutôt des soundscapers, plutôt parfois même des acousticiens. C'est là qu'il faut qu'on arrive à diffuser pour aller toucher tous ces gens qui, de près ou de loin, vont pouvoir s'intéresser à ce qu'on fait ici. Et c'est là que Françoise va peut-être prendre la notice bibliographique de cette recherche sur Madrid. avec toutes les données, ou si bien dire, voilà, qui l'a fait, quand est-ce qu'il l'a fait, pourquoi il l'a fait et de quoi ça se compose. Ensuite, voilà, on peut décliner sur chacune des items. Je ne vais pas recommencer, si ça, bonsoir. Et chacune des items, voilà, est à la fois décrite précisément, avec éventuellement des méthodes données visuelles, quand par exemple, tiens, il a fait un parcours, et puis il faut retrouver dans le descriptif par où il est passé, et le son va faire ce parcours. Voilà, je n'ai peut-être rien de plus à rajouter, on va laisser la parole à Françoise.